27 avril 1847. Il n'y a pas encore longtemps, je ne pouvais m'imaginer un habitant de Pétersbourg autrement qu'en robe de chambre et bonnet, bien renfermé, avec l'obligation de prendre toutes les 2 heures une cuillerée à soupe de quelques potions. Sans doute, tous n'étaient pas malades. Aux uns, c'était interdit par leurs occupations, aux autres, par leur robuste constitution. Mais enfin, voilà que le soleil brille, et cette nouvelle en vaut bien une autre. Le convalescent hésite. Indécis, il ôte son bonnet, puis il répare sa toilette. Enfin, il consent à faire une promenade. Sans doute, bien emmitouflé, tricot de laine, pelisse et galoche. La douceur de l'air le surprend agréablement, ainsi que l'aspect de fête de la foule dans les rues et le bruit assourdissant des voitures sur le pavé. Enfin, sur la perspective Nevski, le convalescent avale de la poussière neuve. Son cœur commence à battre et quelque chose comme un sourire détend ses lèvres jusqu'ici fermées comme un signe d'interrogation ou de mécontentement. La première poussière de Pétersbourg, après un déluge de boue et de quelque chose de très mouillé dans l'air, ne le cède pas en douceur à l'ancienne fumée des foyers de la patrie, et le promeneur, du visage duquel disparaît enfin la méfiance, se résout à jouir du printemps. En général, chez l'habitant de Pétersbourg qui se décide à jouir du printemps, il y a quelque chose de si bonhomme, de si naïf, qu'on ne peut ne point partager sa joie. Même s'il rencontre un ami, il oublie la phrase banale « Quoi de neuf ?» et la remplace par une autre beaucoup plus intéressante « Hein ? Quel temps ?» Et l'on sait qu'après le temps, surtout quand il est mauvais, la question la plus saugrenue à Pétersbourg est « Quoi de neuf ?» J'ai remarqué souvent que quand 2 amis pétersbourgeois se rencontrent quelque part, après s'être salués, ils demandent en même temps « Quoi de neuf ?» Il y a une tristesse particulière dans leur voix, quelle qu'ait été l'intonation initiale de leur conversation. En effet, une désespérance totale est liée à cette question à Pétersbourg. Mais le plus agaçant, c'est que, très souvent, l'homme qui la pose est tout à fait indifférent. Un pétersbourgeois de naissance, qui connaît très bien la coutume, sait d'avance qu'on ne lui répondra rien, qu'il n'y a rien de nouveau, qu'il a posé cette question peut-être 1000 fois sans aucun succès. Cependant, il la pose et il a l'air de s'y intéresser, comme si les convenances l'obligeaient de participer lui aussi à la vie publique, d'avoir des intérêts publics. Mais les intérêts publics, c'est-à-dire, nous ne nions pas que nous ayons des intérêts publics. Nous tous aimons ardemment la patrie, nous aimons notre cher Pétersbourg, nous aimons jouer si l'occasion se présente. En un mot, il y a beaucoup d'intérêts publics. Mais ce qu'il y a surtout chez nous, ce sont les groupes. On sait que Pétersbourg n'est que la réunion d'un nombre considérable de petits groupes dont chacun a ses statuts, ses conventions, ses lois, sa logique et son oracle. C'est en quelque sorte le produit de notre caractère national qui a encore peur de la vie publique et tient plutôt au foyer. En outre, la vie publique exige un certain art. Il faut s'y préparer, il faut beaucoup de conditions. Aussi, l'on préfère la maison. Là, tout est plus simple. Il ne faut aucun art. On est plus tranquille. Dans le groupe, on vous répondra bravement à la question « Quoi de neuf ?» La question reçoit tout de suite un sens particulier et l'on vous répond ou par un potin, ou par un bâillement, ou par quelque chose qui vous force vous-même à bâiller cyniquement, magistralement. Dans le groupe, on peut traîner de la façon la meilleure et la plus douce une vie utile entre le bâillement et le ragot, jusqu'au moment où la grippe ou bien la fièvre chaude visite votre demeure, et vous quittez alors la vie stoïquement, avec indifférence, sans savoir comment et pourquoi tout cela était avec vous jusqu'alors. Aujourd'hui, Dans l'obscurité, au crépuscule, après une triste journée, plein d'étonnement que tout se soit arrangé ainsi, il semble qu'on ait vécu, qu'on ait atteint quelque chose, et tout à coup, on ne sait pas pourquoi, il faut quitter ce monde agréable et sans souci pour émigrer dans un monde meilleur. Dans certains groupes, d'ailleurs, on parle fortement de la cause. Quelques personnes instruites et bien intentionnées se réunissent. On bannit sévèrement tous les plaisirs innocents, comme les potins et la préférence, et, avec un entrain incompréhensible, on parle de différents sujets très importants. Enfin, après avoir bavardé, parlé, résolu quelques questions d'utilité générale, et après avoir réussi à imposer aux uns et aux autres une opinion sur toute chose, le groupe est saisi d'une irritation quelconque et commence à s'affaiblir considérablement. Finalement, tous se fâchent les uns contre les autres. On se dit quelques dures vérités. Quelques caractères tranchants se font jour et tout se termine par la dislocation totale. Ensuite, on se calme. On fait provision de bon sens et, peu à peu, l'on se réunit de nouveau dans le groupe décrit ci-dessus. Sans doute, il est agréable de vivre ainsi, mais à la longue, cela devient irritant, cela irrite fortement. Par exemple, moi, je suis fâchée contre notre cercle patriarcal parce qu'il y vient toujours un homme du type le plus insupportable. Vous tous, messieurs, le connaissez très bien. Son nom est Légion. C'est un homme qui a bon cœur et n'a rien qu'un bon cœur. Comme si c'était une chose rare à notre époque d'avoir bon cœur. Comme si, enfin, on avait besoin d'avoir bon cœur, cet éternel bon cœur. L'homme doué d'une si belle qualité a l'air dans la vie tout à fait sûr que son bon cœur lui suffira pour être toujours content et heureux. Il est si sûr du succès qu'il néglige tout autre moyen en venant au monde. Par exemple, il ne connaît ni mesure ni retenue. Tout, chez lui, est débordant, à cœur ouvert. Cet homme est enclin à vous aimer soudain, à se lier d'amitié, et il est convaincu qu'aussitôt, réciproquement, tous l'aimeront par ce seul fait qu'il s'est mis à aimer tout le monde. Son bon cœur n'a même jamais pensé que c'est peu d'aimer chaudement, qu'il faut posséder l'art de se faire aimer, sans quoi tout est perdu, sans quoi la vie n'est pas la vie, ni pour son cœur aimant, ni pour le malheureux que naïvement il a choisi comme objet de son attachement profond. Si cet homme se procure un ami, aussitôt celui-ci se transforme pour lui en un meuble d'usage, quelque chose comme un crachoir. Tous ceux qu'il a dans le cœur, n'importe quelle saleté, comme dit Gogol, tout s'envole de la langue et tombe dans le cœur de l'ami. L'ami est obligé de tout écouter et de compatir à tout. Si ce monsieur est trompé par sa maîtresse, ou s'il perd aux cartes, aussitôt, comme un ours, il fond, sans y être invité, sur l'âme de l'ami et y déverse tous ses soucis. Souvent, il ne remarque même pas que l'ami, lui-même, a des chagrins par-dessus la tête, ou ses enfants sont morts, ou un malheur est arrivé à sa femme, ou il est excédé par ce monsieur au cœur aimant. Enfin, on lui fait délicatement sentir que le temps est splendide et qu'il faut en profiter pour une promenade solitaire. Si cet homme aime une femme, il l'offensera 1000 fois par son caractère avant que son cœur aimant le remarque, avant de remarquer, si toutefois il en est capable, que cette femme s'étiole de son amour, qu'elle est dégoûtée d'être avec lui, qu'il empoisonne toute son existence. Oui, c'est seulement dans l'isolement, dans un coin, et surtout dans un groupe, que se forme cette belle œuvre de la nature, ce spécimen de notre matière brute, comme disent les Américains, en qui il n'y a pas une goutte d'art, en qui tout est naturel. Un homme pareil oublie, il ne soupçonne même pas, dans son inconscience totale, que la vie est un art, que vivre c'est faire œuvre d'art par soi-même, que ce n'est que dans le lien des intérêts dans la sympathie pour toute la société et ses exigences directes, et non dans l'indifférence destructrice de la société, non dans l'isolement que son capital, son trésor, son bon cœur peut se transformer en un vrai diamant taillé. Seigneur Dieu, où sont allés les anciens traîtres des vieux mélos et des romans? L'existence était agréable quand ils vivaient dans le monde. C'est pourquoi il est agréable qu'ici, tout de suite, à côté, se trouve également l'homme le plus vertueux qui défendra l'innocence et punira le mal. Ce traître, ce tyranno ingrato, c'était un malfaiteur engendré par un jeu mystérieux et tout à fait incompréhensible du sort. Tout en lui était la personnification du mal. Il était déjà malfaiteur dans le sein de sa mère. C'est peu. Ses aïeux, pressentant probablement sa venue au monde, avaient choisi intentionnellement le nom qui convenait à la position sociale de leur futur descendant. Si bien que, d'après le nom seul, vous comprenez que cet homme se promène armé d'un couteau et tue les gens sans raison, Dieu sait pourquoi, comme s'il était une machine à tuer et à incendier. Ça, c'était bien, au moins on savait à quoi s'en tenir. Maintenant, les auteurs parlent de Dieu sait quoi. Maintenant, il arrive que l'homme le plus vertueux, le plus incapable d'un crime, se montre soudain un parfait malfaiteur, sans que même il s'en doute. Et le plus fâcheux, c'est que personne ne peut le remarquer, personne ne peut le dire. Alors, longtemps, il est entouré de respect, et enfin il meurt couvert d'une telle gloire, accompagné de telles louanges, qu'on se prend à l'envier. Souvent, il pleurait sincèrement, tendrement, et, ce qui est le plus drôle, il est pleuré par sa victime même. Malgré cela, il y a parfois tant de prudence dans le monde qu'on ne comprend pas du tout comment elle arrive à se loger parmi nous. Voici par exemple un cas qui s'est produit ces jours derniers. Un de mes anciens amis, un tantinet mon protecteur, Julian Mastakovitch, a l'intention de se marier. À vrai dire, il est difficile de se marier à un âge plus convenable. Il n'est pas encore marié, il a encore 3 semaines de bon temps avant le mariage. Mais, chaque soir, il met son gilet blanc, sa perruque, tout ce qu'il faut, achète un bouquet et des bonbons, et s'en va faire sa cour à Glafira Petrovna, sa fiancée, jeune fille de 17 ans, tout à fait innocente, qui est dans l'ignorance complète du mal. Rien qu'à cette pensée, un sourire sucré paraît sur les lèvres de Julian Mastakovitch. Non, il est même agréable de se marier à un âge pareil. Selon moi, s'il faut tout dire, il est même inconvenant de le faire pendant la jeunesse, c'est-à-dire avant 35 ans. Mais quand l'homme approche à la 60aine, quand il est assagi, quand, physiquement et moralement, il a déjà atteint la perfection, oh alors, c'est bien, vraiment bien. Et pensez, voici un homme qui a vécu longtemps et qui, enfin, a atteint son but. Aussi, fus-je tout à fait étonné lorsque, ces jours derniers, un soir, je vis Julian Mastakovitch arpenter son bureau, les mains derrière le dos, l'air défait et triste. C'est aujourd'hui seulement que j'en ai compris la raison. Je ne voulais même pas en parler. C'est une circonstance sans intérêt, banale, qu'il ne faut même pas prendre en considération devant les gens bien pensants. Rue Gorokhovaya, au 4e sur la rue, est un appartement qu'autrefois, d'ailleurs, j'avais voulu louer. Actuellement, cet appartement est habité par une veuve jeune et agréable qui a l'air très engageant. Or, Julian Mastakovitch était soucieux parce qu'il se demandait comment il ferait, une fois marié, pour aller le soir, comme d'habitude, peut-être un peu plus rarement, chez Sophie Ivanovna, afin de s'entretenir avec elle de son procès. Il y a 2 ans déjà, Sophie Ivanovna a présenté une requête au tribunal et son mandataire est Julian Mastakovitch, qui a si bon cœur. C'est pourquoi De telles rides creusaient son front sérieux. Mais enfin, il mit son gilet blanc, prit le bouquet et les bonbons et, l'air joyeux, alla chez Glafira Petrovna. « Voilà un homme heureux, » pensai-je, me rappelant Julian Mastakovitch. Déjà avancé en âge, il rencontre une compagne qui le comprend, une jeune fille de 17 ans, innocente, instruite, sortie du pensionnat il n'y a qu'un mois. Et cet homme vivra toute sa vie dans l'aisance et le bonheur. Je fus saisie d'envie. Ce jour était si sale, si morose. Je marchais rue Siennaya. Mais, messieurs, je suis feuilletoniste et je dois vous parler des nouvelles les plus fraîches. Je dois vous dire, par exemple, que Jenny Lind, note, célèbre cantatrice suédoise, part pour Londres. Mais qu'est-ce que c'est que Jenny Lind pour un lecteur de Pétersbourg? Il a bien d'autres chats à fouetter. Alors, voilà, je marchais rue Siennaya, me demandant sur quel sujet je pourrais bien écrire. L'ennui me rongeait. C'était un matin humide et brumeux. Pétersbourg se levait méchant et hargneux, comme une vieille fille mondaine, verte et jaune de dépit, à cause du bal de la veille. Il était en colère des pieds à la tête. Avait-il mal dormi? Une grande quantité de bile s'était-elle répandue en lui? Avait-il la veille perdu beaucoup aux cartes, comme un galopin, à tel point que le matin ses poches étaient complètement vides? Était-ce pour quelque autre raison? C'est difficile à dire. En tout cas, il était fâché. C'était triste de voir ces énormes murs humides, ces marbres, ces bas-reliefs, ces statues, ces colonnes, qui avaient aussi l'air de s'irriter contre le mauvais temps, qui tremblaient et claquaient des dents. Tous les horizons pétersbourgeois avaient l'air triste et morne. Pétersbourg était fâché. C'était 1 heure de l'après-midi, il faisait tout à fait noir. À ce moment, un cortège funèbre vint à passer. Aussitôt, en ma qualité de feuilletoniste, je me suis rappelé que la grippe et le typhus sont des questions pétersbourgeoises presque d'actualité. C'étaient des obsèques magnifiques. Le héros du cortège, en un riche corbillard, triomphalement, les pieds devant, se rendait dans le logement le plus commode du monde. Une longue file de moines écrasée sous leurs lourdes bottes, des branches de sapin jetées sur le sol, qui répandait une odeur de goudron dans toute la rue. Un chapeau à plumet, posé sur le cercueil, annonçait aux passants le grade du dignitaire. Ces décorations, placées sur des coussins, suivaient. Près du corbillard sanglotait un colonel, déjà tout blanc, inconsolable, probablement le gendre du défunt, peut-être son cousin. Dans la longue file de voitures, on apercevait, comme d'habitude, des visages endeuillés, on entendait les potins qui ne meurent jamais et les enfants riaient gaiement dans leurs crêpes blancs. J'avais du dépit, de l'angoisse, et je saluais d'un air profondément offensé l'amabilité d'un cheval aux 4 pieds ankylosés qui était tranquillement dans son rang et, ayant depuis longtemps avalé la dernière touffe de foin volée à une télègue voisine, se décidait à faire une plaisanterie, c'est-à-dire à choisir le passant le plus affairé, pour lequel probablement il m'avait pris, de le saisir légèrement par le col ou la manche, et ensuite, comme si rien n'était arrivé, de lui montrer sa gueule vertueuse et barbue. Pauvre Ross! Je suis rentrée à la maison. Je me suis préparée à écrire mon feuilleton, mais, je ne sais comment, j'ai ouvert la revue et me suis mise à lire une nouvelle. Dans cette nouvelle, note, Zboyev, nouvelle de Néostroyev, fin de note. On décrit une famille de Moscou, de la classe moyenne. On y parle aussi de l'amour. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je n'aime pas les histoires d'amour, et je me suis transportée à Moscou dans ma patrie lointaine. Si vous n'avez pas lu cette nouvelle, messieurs, lisez-la. En effet, que pourrais-je vous dire de meilleur, de plus nouveau? que les nouveaux omnibus ont fait leur apparition sur Nevski, que la Neva a occupé tous les esprits durant une semaine, que dans les salons on continue toujours à bâiller à jour fixe en attendant l'été avec impatience? Est-ce cela? Mais cela vous ennuie depuis longtemps déjà, monsieur. Voilà, vous avez lu la description d'une matinée à Pétersbourg. N'est-ce pas suffisant comme ennui? Alors, pendant une matinée aussi pluvieuse, lisez cette nouvelle sur une famille de petites gens de Moscou et la glace brisée. C'est comme si je l'avais vue dans mon enfance, cette pauvre Anna Ivanovna, la mère de famille. Et je connais aussi Ivan Kirillovitch. Ivan Kirillovitch est un brave homme, seulement quand il est gai, un peu éméché, il aime les plaisanteries. Par exemple, sa femme est malade et a peur de la mort. Alors lui, bien portant, pour rire et plaisanter, se met à raconter comment il se remariera quand il sera veuf. La femme se retient, elle finit par rire. Que faire si son mari a déjà un pareil caractère? Mais voilà que la théière est cassée. Il est vrai qu'une théière coûte cher. Cependant, c'est un spectacle honteux de voir, devant les invités, le mari reprocher à sa femme une maladresse. Puis vint le carnaval. Ivan Kirillovitch n'était pas à la maison. Le soir, comme par hasard, plusieurs jeunes amis de la fille aînée, Olga, se réunirent chez elle. Il y avait aussi des jeunes gens, et des enfants très bruyants, et un certain Pavel Lukitch, qui paraissait sorti d'un roman de Walter Scott. Il bouscula tout le monde, ce Pavel Lukitch. Il proposa de jouer à Colin Maillard. La pauvre malade, Anna Ivanovna, eut comme un pressentiment. Mais, gagnée par le désir général, elle autorisa le Colin Maillard. Ah, messieurs, cela me reporte à 15 ans, quand moi-même je jouais à Colin Maillard. Quel jeu! Et ce Pavel Lukitch! Ce n'est pas en vain que Sashenka, aux yeux noirs, amie d'Olga, chuchote en se serrant contre le mur et tremblant de l'attente qu'elle ait perdue. Ce Pavel Lukitch est si terrible, et c'est lui qui a les yeux bandés. Les petits enfants, s'étant mis dans un coin, sous une chaise, firent du bruit près d'une glace. Pavel Lukitch se jeta du côté d'où venait le bruit. La glace trembla, quitta ses pitons rouillés, et par-dessus sa tête, tomba par terre et se brisa en 1000 morceaux. Ah, quand j'ai lu cela, il m'a semblé que j'avais moi-même cassé cette glace, que j'étais moi-même coupable de tout cela. Anna Ivanovna pâlit. Tous prirent la fuite, car la peur les avait tous saisis. Qu'allait-il arriver? Avec crainte et impatience, j'attendais le retour d'Ivan Kirillovitch. Je pensais, voilà, il rentrera ivre, au-devant de lui, sur le perron, sortira la grand-mère, cette vipère, un type de l'ancien Moscou, et elle lui chuchotera quelque chose, probablement sur le malheur arrivé. Mon cœur commençait à battre. Soudain, éclate l'orage. D'abord, avec un fracas de tonnerre qui, peu à peu, se calma, j'entendis la voix d'Anna Ivanovna. 3 jours après, elle était au lit, et un mois plus tard, elle mourait de phtisie galopante. Alors quoi? Tout cela à cause d'une glace brisée. Mais est-ce possible? Oui, et elle est morte. Il y a un charme à la Dickens dans la description des dernières minutes de cette vie inconnue, effacée. Et Ivan Kirillovitch? Il est presque devenu fou. Il courait à chaque instant à la pharmacie. Il se querellait avec le médecin. Il demandait toujours, en sanglotant, à qui sa femme allait le laisser. Oui, je me suis rappelé beaucoup de choses. À Pétersbourg, il y a aussi beaucoup de familles pareilles. J'ai connu personnellement un Ivan Kirillovitch. On en trouve partout. J'ai commencé, messieurs, à vous parler de cette nouvelle, parce que j'avais l'intention de vous raconter moi-même une nouvelle. Mais ce sera pour une autre fois. À propos de littérature, nous avons entendu dire que beaucoup sont très contents de la saison d'hiver. Il n'y a pas eu beaucoup de bruit, de querelles particulières, bien que quelques nouveaux journaux et revues aient fait leur apparition. Mais tout se fait beaucoup plus sérieusement. Il y a en tout plus d'entente et de réflexion. Il est vrai que le livre de Gogol a fait beaucoup de bruit au commencement de l'hiver. Ce qui est surtout remarquable à propos de ce livre, c'est l'opinion unanime de presque tous les journaux et revues qui, d'habitude, se contredisent toujours. Pardon, j'ai oublié le principal. Tout le temps j'y ai pensé, puis je l'ai oublié. Ernst donne encore un concert. Ce sera au profit de la Société de secours aux pauvres et de la Société allemande de bienfaisance. Nous ne disons pas que le théâtre sera archi comble, nous en sommes sûrs.